Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
Sophie Durocher.
Tout un spectacle radiophonique.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis scandalisée. Je suis scandalisée et terrorisée, les deux en même temps. Parce que on a appris tout récemment que Paul Bernardo, qui est vraiment un psychopathe dangereux, un sadique, un être effroyable, je veux dire, démoniaque, tueur en série, violeur, psychopathe, sadique, qui croupissait depuis plusieurs années dans un établissement à sécurité maximum en Ontario, ben, il a été transféré dans un établissement à sécurité moyenne, donc des conditions de détention beaucoup moins sévères. Et il a été transféré ici même au Québec, à la Macasa, dans les Laurentides. Pourquoi? Et quel message ça envoie aux proches des victimes? Tout le monde est scandalisé du côté, par exemple, des politiciens conservateurs, mais beaucoup de gens en Ontario et au Québec sont scandalisés de cette décision. J'avais envie d'en parler avec Pierre-Hugues Boisvenu, qui est sénateur conservateur. Bonjour, Monsieur Boisvenu.
Madame Desrochers, bonne journée à tous les gens qui sont avec nous sur Cube.
Quand vous avez appris que Paul Bernardo avait été transféré non seulement dans un établissement à sécurité moindre, mais en plus qu'il était transféré ici au Québec, ça a été quoi votre réaction, sénateur Boisvenu?
Ça continue. Écoutez, le Québec a hérité depuis à peu près 5-6 ans des pires criminels qu'on a connus dans les annales judiciaires. Pensez à Rocco, le fameux tueur. Là,
Rocco Magnotta, oui.
Vous voyez qu'il a dépassé son ben, il est rendu à Port-Cartier. Je pourrais vous en énumérer à peu près une demi-douzaine qui sont partis de l'Ontario ou des provinces de l'Ouest qui sont amenés au Québec. Est-ce que c'est parce que les conditions sont plus douces au Québec qu'ailleurs? Mais ce qui est inquiétant surtout, Mme Desrochers, c'est que les familles n'ont jamais été avisées au préalable de ce changement-là. On les a informées après coup et c'est la troisième ou quatrième fois depuis 2 ans, là, que j'observe cette décision-là où les victimes ne sont pas du tout informées. Et ça, c'est contre la loi qu'on a fait adopter en 2015, qui est la Charte des droits des victimes, où il y a une obligation, tant du système carcéral que de la Commission de libération conditionnelle, d'informer les victimes, ce qu'on n'a pas fait ici. J'écoutais M. Trudeau ce matin en disant, ben, on va suivre le dossier.
Ben oui.
Jamais il a prononcé le mot famille, le mot victime. C'est comme un peu ésotérique pour lui, ce sujet-là, alors que ça remet carrément en question les droits fondamentaux des victimes.
Alors, c'est important parce que je pense que pour peut-être la plus jeune génération, Paul Bernardo, ça dit rien. Donc, faut rappeler quand même, sénateur Boisvenu, Paul Bernardo, sa conjointe Carla Homolka, c'est un couple démoniaque. Dans les années 90, on suivait ça. C'est absolument épouvantable. Ils ont kidnappé, torturé, violé, tué des jeunes femmes. En plus, on soupçonne, sans que ça ait jamais été prouvé, que Carla Homolka, avec son mari Paul Bernardo, ait torturé, violé et tué la propre sœur de Carla Homolka. L'Ontario avait été terrorisé pendant des semaines parce qu'il y avait ces jeunes femmes qui disparaissaient de la circulation. Et quand on a mis la main au collet de Paul Bernardo et Carla Homolka, Carla Homolka avait plaidé le fait que c'était une pauvre victime puis que c'était son mari qui l'avait influencée, alors qu'on a découvert par la suite qu'elle avait participé activement, une femme qui a participé activement à au kidnapping, à la torture et au viol de jeunes femmes. Paul Bernardo, c'est un psychopathe.
Oui, exactement. Et Mme Homolka, qui est rendue maintenant au Québec.
À Châteauguay. Elle a fait 3 enfants.
Elle a changé de nom. Maintenant, elle s'appelle Tremblay. Et ça encore, c'est une hérésie du système au Québec, du directeur de l'État civil qui permet à des gens condamnés pour des crimes très graves de changer de nom. On pense aux pédophiles dans le bout de Portneuf qui voulaient changer de nom parce qu'ils avaient, ils avaient été reconnus coupables de pédophilie sur des jeunes filles, des enfants. Notre système est rempli d'hérésies de cette nature-là qui fait que les droits des criminels passent avant ceux des familles, ceux des victimes, voilà. Ceux de la collectivité. Et ça, je vous dirais, depuis 2015, depuis l'arrivée de Justin Trudeau au pouvoir, c'est à tous les semaines, à tous les mois, où on a des exemples, là, où on a l'impression que la Charte des droits des victimes, ce n'est qu'un bout de papier sur lequel là, on peut se moucher, alors que les criminels profitent depuis à peu près 8-9 ans, depuis 8 ans, de situations très douces pour elles. Je pense seulement qu'à la loi qu'on a adoptée il y a quelques années, les libéraux, où maintenant, dans le système carcéral, si vous commettez une infraction, il faut que la punition soit la moins contraignante possible. Donc, on a un système carcéral qui fait en sorte qu'il faut que le traitement des criminels dans les pénitentiaires fédéraux soit le moins contraignant sur eux. Ça dénature complètement la justice, ça dénature complètement à quoi sert l'incarcération, et on le voit dans ce cas-là, on l'envoie à la Macasa, qui est un pénitentiaire pour prédateurs sexuels. Fait qu'imaginez-vous, un gars qui est complètement disjoncté, on l'envoie dans un milieu qui est rempli de prédateurs sexuels. Je ne sais pas comment on va pouvoir un jour rétablir chez ce homme-là un équilibre, là. Mais même l'envoyer là, Mme Desrochers, c'est incompréhensible.
Ben oui, alors je veux, donc, à propos de Paul Bernardo, vous avez tout à fait raison, c'est tout ça, c'est absolument épouvantable. Je veux juste revenir sur quelque chose que vous avez dit. Je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai. Comment se fait-il que, par exemple, bon, on s'éloigne du sujet de Paul Bernardo, mais on va y revenir. Dans le cas de Carla Homolka, quand ça avait été découvert, justement, qu'elle habitait tranquillement à Châteauguay puis que ses trois enfants fréquentaient une école du coin, ben, quand on a interrogé les voisins, il y a quelques années de ça, les voisins disaient, ben, j'aurais aimé ça le savoir que c'était elle qui habitait là, parce que c'est quand même une prédatrice sexuelle. Et donc, tous les jours, elle allait tranquillement mener ses petits-enfants à l'école, chercher ses enfants à l'école, alors que si elle avait été obligée par la loi de garder son nom de Carla Homolka, les gens auraient su à qui ils avaient affaire. Donc, la question de l'état civil est importante. Alors, donc, revenons à Paul Bernardo. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a fait une sortie quand même assez soutenue aujourd'hui. Il a dit que Paul Bernardo devrait rester en prison à sécurité maximale. Il a même dit qu'il devrait pourrir en prison en sécurité maximale pour le reste de sa misérable existence. Nous sommes avec les victimes et leurs familles. Quand il se passe quelque chose comme ça, comment ça se fait que, justement, on a l'impression que le système oublie les victimes et les proches des victimes?
Souvenez-vous du cas de McClintic qui avait assassiné la petite Stafford en Ontario. Elle se ramasse dans un maximum parce qu'elle a enlevé la petite fille. Elle l'a agressée sexuellement, puis elle l'a assassinée. Petite fille de 16 ans. Lorsqu'elle se ramasse dans un pénitentiaire fédéral, elle décide, elle, qu'elle est une autochtone. Parce qu'au fédéral, pour être reconnue autochtone dans un pénitentiaire, c'est de l'autodéclaration. Pour vous déclarer. Donc, vous pouvez bénéficier à ce moment-là de conditions beaucoup moins sévères. Entre autres, elle a pu bénéficier d'un transfert dans une prison à sécurité minimale 2 ans après avoir assassiné la jeune fille.
Incroyable.
C'est parce qu'on a sorti le poteau rose que le ministre de Titan a décidé de retourner cet individu-là dans maximal. Mais au fédéral, les gens qui sont incarcérés, ce sont pour ces administrateurs-là aujourd'hui des victimes du système. On ne pense plus au mot victime. D'ailleurs, on vient de passer à travers la semaine des victimes d'un criminel. Avez-vous entendu un député fédéral, libéraux, avoir le mot victime dans la bouche? Ça l'a passé sous silence. Ça ne fait pas partie de leur vocabulaire. Donc, de voir ces décisions-là qui sont prises à toutes les semaines, moi, ça ne me surprend pas. C'est un gouvernement qui est pro-criminel et tout est fait pour que ce soit le plus doux possible pour eux.
Ben moi, je vais le donner le nom des victimes. Kristen French.
Il faut se rappeler, ces gens-là qui sont disparus parce qu'on les a assassinés, il faut toujours se rappeler de leur mémoire, puis se le rappeler tous les jours.
Vous avez raison.
Carla Homolka, vous le disiez tantôt, moi j'ai lu le rapport lorsqu'elle est sortie de pénitentiaire parce que j'avais milité pour qu'elle demeure en dedans. Et le psychiatre qui l'a surveillé, qui l'a analysé, elle a dit, si cette femme-là se retrouve avec un individu qui est déséquilibré, elle va reprendre son côté criminogène qu'elle avait avant.
Ouais. Alors, on va donner le nom des victimes parce que c'est ça, on vit dans une société où on connaît plus le nom des meurtriers et des psychopathes et des tueurs en série et des violeurs et des tortureurs que le nom des victimes. Alors, en tout respect, Kristen French était âgée de 15 ans quand elle a été kidnappée, torturée, violée, assassinée par Paul Bernardo et Carla Homolka. Leslie Mahaffey avait 14 ans quand elle a été kidnappée, torturée, violée, assassinée par Paul Bernardo et Carla Homolka. Je pense qu'on doit à ces deux jeunes femmes de leur rendre leur dignité et de leur et de parler d'elles aujourd'hui, d'autant plus que leur avocat, donc en fait l'avocat de la famille, l'avocat des proches, Tim Denson, a dit qu'il était absolument scandalisé et il appelle le service correctionnel du Canada à être plus transparent parce qu'il dit, un, pourquoi ça il a été transféré, Paul Bernardo, d'un établissement à sécurité maximum jusqu'à un établissement à sécurité moyenne. Et il veut aussi, parce que le service correctionnel dit, ben monsieur Bernardo a droit à la vie privée. Hey, je m'excuse, sénateur Boisvenu, quand j'ai lu ça, là, il a le droit, lui, à la vie privée. Fait que faut pas qu'on rentre dans sa intimité puis qu'on donne des informations au grand public. Hey, c'est droit, là. C'est scandaleux.
Je me souviens d'un débat que j'avais eu avec Denis Coderre quelques années après que Julie Mappé avait été assassinée. Et j'avais dit à M. Coderre, je croyais qu'au Canada, lorsqu'on assassinait une personne, on perdait des droits. Non, on en gagne. Et vous savez, Mme Rocher, maintenant, en prison, dans un pénitencier fédéral, la cellule est reconnue comme un lieu privé maintenant.
Donc, mais voyons donc.
Exactement. Les gardiens ne peuvent plus faire comme on faisait avant, des fouilles à l'improviste, l'écoute électronique, parce que souvent les criminels en pénitentiaire poursuivent leur agir criminel. C'est de nature privée et c'est la Charte des droits et libertés qui s'applique dans la cellule.
Je n'en viens pas, je suis découragée. Alors pendant ce temps-là, on a des politiciens, c'est ça, Trudeau qui dit « Ah, je comprends la consternation ». C'est pas de la consternation, Monsieur Trudeau, c'est de l'indignation. C'est de l'indignation, on est collé au plafond.
C'est une loi qu'il ne respecte pas. Si moi, je ne respecterais pas de loi demain, j'aurais un procès. Pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral, le service correctionnel, qui ne respecte pas une loi fédérale qui a été adoptée par le Parlement, comment ça que cet organisme-là n'est pas au banc des accusés en disant « Venez vous expliquer ».
Ouais. Alors, écoutez, c'est très important. Ça vient tout juste de sortir, sénateur Boisvenu. Donc, je sais pas si vous l'avez vu passer. SCC, donc Service correctionnel du Canada, vient tout juste d'émettre un communiqué. Donc, je vous le lis, je l'apprends en même temps que je fais l'entrevue avec vous. Donc, Service correctionnel du Canada prend son travail très au sérieux. Blablabla. Les décisions sont prises avec la prudence. Nous tenons d'abord à mentionner que nous sommes conscients des répercussions de nos décisions sur les victimes. Bon, au moins, il le reconnaît. Il s'agit de crimes horribles. Nous déplorons la douleur et les préoccupations que la situation a pu causer. Nous voulons assurer à la population canadienne que ce délinquant demeure incarcéré dans un établissement sécurisé et contrôlé, que toutes les précautions possibles sont prises pour assurer la sécurité du public. Par contre, en second lieu, nous tenons à maintenir la confiance de la population canadienne à l'égard de nos décisions. C'est pourquoi la commissaire Anne Kelly a ordonné la tenue d'un nouvel examen du cas de ce délinquant. L'examen a pour objet de s'assurer qu'il a été placé au bon niveau de sécurité en fonction des données probantes disponibles et surtout que les préoccupations des victimes ont été adéquatement prises en compte. Bon, est-ce que ça vous rassure, ça, quand même, sénateur Boisvenu? Ça vient de sortir, là, c'est tout chaud, ça vient de sortir du four.
Non, Mme Kelly devrait démissionner. Elle écrit cette lettre-là parce qu'elle a été pris la main dans le sac. Si ça n'avait pas été l'objet d'une couverture médiatique, elle ne serait pas excusée. Elle le fait parce qu'elle s'est fait prendre.
Vous demandez donc la démission?
Elle doit démissionner parce que ce n'est pas la première erreur qu'elle commet en poste. C'est une série d'erreurs. Pensez, je veux dire, aux gens qu'on a libérés, comme celui que suit la jeune Lévesque à Québec. Écoutez, c'est un après l'autre des erreurs que le service correctionnel fait, ou comme la commission de libération. On a nommé des gens incompétents à la tête de ces organismes-là et aujourd'hui, on en paye la note.
Ouais, c'était M. Galaisé, hein?
Galaisé,
Eustachio Galaisé, ouais, ça c'est une aussi la jeune. Il faut donner leur nom aux victimes, hein. Donc Marie-Hélène Lévesque. Ah ouais. Quelle tristesse. Écoutez, moi je suis comme vous, sénateur Boisvenu, je suis scandalisée et je veux juste terminer en partageant avec nos auditeurs, nos auditrices un message de l'avocat donc des proches de Kristen French et Leslie Mahaffey. Donc il demande à tout le monde, nous avons besoin, dit-il, que le public en masse par millions écrive au ministre, mm-hmm. Il s'appelle monsieur Mendocino, au ministre, à la commissaire des services correctionnels donc Madame Kelly, et aux membres du Parlement, donc aux députés, pour exprimer leur indignation à ce sujet. Le secret ne fonctionnera pas. Nous voulons la transparence. Ben moi, je pense qu'il faut, en effet, comme citoyen, qu'on soit solidaire de la famille des deux victimes et que on partage notre indignation à ce sujet-là.
Et je pourrais vous dire, je vais vous donner son courriel. Pour beaucoup de monde, c'est plus facile. C'est son nom, Mendocino, et point P9 au commercial GC, POR pour Parlement, GCCA. Donc, c'est son nom, point entre son nom et son prénom, point P9, c'est directement dans son cellulaire, tellement qu'il faut lui écrire.
Et là là. Donc, écrivons en masse au ministre pour lui dire à quel point on trouve ça absolument insupportable. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion, sénateur Boisvenu. Ben évidemment, vous avez perdu votre fille dans des circonstances absolument atroces. Mais vraiment, parce que les plus jeunes, je pense, ne mesurent peut-être pas à quel point ce sont des actes horribles et c'est un psychopathe, ce gars-là. Il faut vraiment réagir très fortement. Merci beaucoup, sénateur Boisvenu. Je rappelle que vous êtes donc Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur conservateur. Merci de votre préoccupation constante pour les victimes.
Merci de m'avoir parlé sur votre radio. Au revoir.